Chapitre 10. Femme future. À partir de ce jour-là, le docteur ne connut plus la paix. Jamais un intérieur tranquille et bien dirigé ne fut aussi brusquement transformé en une maison à l'envers. Jamais un heureux mortel ne devint aussi complètement malheureux. Jusqu'alors, il ne s'était jamais aperçu combien ses filles le protégeaient contre tous les frottements de l'existence. Et maintenant qu'elles ne se bornaient pas à s'abstenir de cette protection, qu'en outre elles étaient devenues une source d'ennui, il commençait à comprendre combien il avait été favorisé et à soupirer après les jours heureux qu'il avait connus tant que ses filles n'avaient pas été sous l'influence de sa voisine. « Vous n'avez pas l'air content !» lui avait fait remarquer un matin Mistress Westmacott. « Vous êtes pâle, un peu anémié. Vous devriez faire une tournée d'une dizaine de milles sur mon tandem. » « J'ai des ennuis au sujet de mes filles. » Ils allaient et venaient lentement par le jardin. De temps en temps, leur arrivée de la maison et par derrière eux, la plainte mélancolique et prolongée d'un corps de chasse. « Ça, c'est Ida. Elle s'est mise à s'exercer sur ce détestable instrument dans les intervalles de sa chimie. Et Clara ne vaut guère mieux. Je déclare que ça devient absolument insupportable. » « Ah, docteur, docteur » s'écria-t-elle en agitant son index et laissant entrevoir ses dents blanches. « Il faut conformer votre genre de vie à vos principes. Il faut laisser à vos filles la même liberté que vous demandez pour les autres femmes. »« La liberté, madame, certainement, mais ceci confine à la licence. »« La même loi pour tous, mon ami. » Elle lui donna une légère tape sur le bras avec son ombrelle. « Quand vous aviez 20 ans, votre père n'est pas intervenu, je suppose, pour vous empêcher d'étudier la chimie ou de vous exercer sur un instrument de musique. S'il l'avait fait, vous auriez trouvé qu'il se conduisait comme un tyran. » « Mais elles ont changé si brusquement toutes les deux. » « Oui, j'ai remarqué qu'elles se sont prises tout dernièrement d'enthousiasme pour la cause de la liberté. Parmi tous mes disciples, je ne crois pas en avoir qui promettent de se montrer plus dévoués, plus logiques. C'est d'autant plus naturel que j'ai en leur père un des champions sur lequel je compte le plus. » Le docteur eut un petit geste d'impatience. « Il me semble que j'ai perdu toute autorité. » « Non, non, mon cher ami. » Elles manifestent d'une façon un peu exubérante leur joie d'avoir rompu les chaînes de l'opinion. Voilà tout. « Vous ne vous imaginez pas ce que j'étais obligée de concéder, madame. J'ai passé par une phase terrible. La nuit dernière, après avoir éteint la bougie dans ma chambre à coucher, j'ai mis le pied sur quelque chose de lisse et de dur qui a glissé par-dessous. Figurez-vous mon horreur. J'ai allumé le gaz et j'ai aperçu une grosse tortue que Clara a jugée à propos d'introduire dans la maison. À mon avis, c'est une sale habitude que celle d'avoir de pareils animaux pour favoris. » Mistress Westmacott fit une petite révérence. « Merci, monsieur, dit-elle. Voilà un joli petit coup asséné sournoisement sur ma pauvre Elisa. » « Je vous donne ma parole que je l'avais oubliée, dit le docteur en rougissant. Un favori de cette espèce, cela peut sans doute se supporter, mais deux, c'est plus que je ne saurais souffrir. Ida possède un singe qui a élu domicile sur les tringles des tentures. » C'est la créature la plus exécrable du monde. Il reste dans une immobilité parfaite jusqu'à ce que vous ayez oublié sa présence, et alors tout à coup, il se met à bondir d'un cadre à un autre tout autour des murs. Il finit par se suspendre au cordon de sonnette et par vous sauter sur le haut de la tête. À déjeuner, il a chipé un œuf à la coque et en a barbouillé toute la poignée de la porte. Ida traite ses inconvenances de facéties amusantes. « Oh, tout s'arrangera !» dit la veuve d'un ton rassurant. Et Clara n'est pas moins méchante. Clara, qui jadis était toujours si bonne et si douce, le portrait même de sa pauvre mère. Elle insiste sur le projet absurde de se faire pilote et ne parle plus que feu tournant, roche cachée, code de signaux et autres inepties de même sorte. « En quoi est-ce absurde ?» demanda son interlocutrice. Est-il une profession plus noble que celle qui concourt à activer le commerce, aider le marin à se diriger en sûreté vers le port? Je serais portée à croire votre fille admirablement douée pour une telle tâche. Alors, sur ce point, je vous demande la permission de n'être pas de votre avis, madame. Vous n'en êtes pas moins inconséquent. Excusez-moi, madame, mais je ne vois point la chose sous le même aspect, et je vous serais obligé, si vous vouliez bien employer votre influence sur ma fille, à la dissuader. Vous voulez me rendre inconséquente aussi ? Alors, vous refusez ? Je crains bien de ne pouvoir intervenir. Le docteur était très irrité. Très bien, madame, dit-il. En ce cas, tout ce que je puis vous dire, c'est de vous souhaiter le bonjour. Il souleva son grand chapeau de paille et s'éloigna à grandes enjambées par l'allée sablée, pendant que la veuve le suivait d'un regard clignotant. Elle fut surprise de s'apercevoir qu'elle trouvait le docteur d'autant plus à son gré qu'il s'était montré plus mâle, plus agressif. C'était déraisonnable, c'était contre tous les principes, mais c'était ainsi et aucun argument ne pouvait rien y changer. Le docteur, très allumé, très furieux, rentra dans sa chambre et s'assit pour lire son journal. Ida s'était retirée et les gémissements lointains de son corps indiquaient qu'elle était là-haut dans son boudoir. Clara était assise en face de lui avec ses terribles cartes et son volume bleu. Le docteur lui jeta un coup d'œil et ses yeux restèrent fixés, immobiles d'étonnement, sur le devant du jupon de sa fille. « Ma chère Clara, s'écria-t-il, vous avez déchiré votre jupon. » Sa fille se mit à rire et à lisser sa blouse. Le docteur fut pétrifié d'horreur en voyant la peluche rouge du siège à l'endroit que le vêtement aurait dû couvrir. « Il est entièrement déchiré, s'écria-t-il. Qu'avez-vous donc fait ?»« Mon cher papa, dit-elle, est-ce que vous connaissez quoi que ce soit au mystère de la toilette des dames ? Cela, c'est un jupon fendu. » Alors il vit qu'en effet, c'était un jupon fait de cette façon et que sa fille portait des culottes courtes extrêmement bouffantes. « Ce sera extrêmement commode pour porter mes bottes à la mer. » Son père secoua tristement la tête. « Votre bonne mère n'aurait guère trouvé cela à son gré. » Pendant un instant, le complot fut sur le point de s'écrouler. Il y avait dans cette réprimande une telle douceur, il y avait tant d'émotion dans cet appel à la mère que les larmes vinrent aux yeux de Clara, et une minute plus tard, on l'eut vue agenouillée près de lui, avouant tout, si la porte ne se fût ouverte, et Ida ne fût entrée dans la pièce en bondissant. Elle portait une courte jupe grise, comme celle de Mistress Westmacott. Elle la soulevait de chaque main et dansait parmi les meubles. « Il me semble que je suis artiste de la gaieté, s'écriait-elle. Comme c'est charmant de se voir sur les planches. Vous ne pouvez pas vous figurer comme c'est chic, ce costume, papa. On se sent si à son aise. Et Clara, n'est-ce pas qu'elle est exquise ? Rentrez tout de suite dans votre chambre et enlevez-moi ça, dit le docteur d'une voix tonnante. Je qualifie pareil costume de parfaitement inconvenant et j'entends que mes filles ne le portent pas. Inconvenant, papa ? Mais c'est la copie exacte de celui de Mistress Westmacott. Je dis que c'est inconvenant, et le vôtre aussi, Clara. Votre conduite est d'une impertinence. Vous me chassez de la maison. Je vais à la ville, à mon club. Je ne trouve plus chez moi ni confort, ni tranquillité d'esprit. Je ne souffrirai pas cela plus longtemps. Il peut se faire que je rentre tard cette nuit. J'irai à la réunion médicale de Londres. Mais j'espère qu'à mon retour, vous aurez réfléchi sur votre conduite et que vous serez affranchi des influences pernicieuses qui ont tout récemment produit un tel changement dans vos dispositions. » Il prit son chapeau tout en faisant claquer la porte de la salle à manger et peu d'instants après, on entendit le bruit que faisait la grande porte cochère. « Victoire, Clara, victoire !» criait Ida en pirouettant autour des meubles. « N'avez-vous pas entendu ce qu'il a dit ? Influence pernicieuse. Clara, est-ce que vous ne comprenez pas ? Pourquoi restez-vous là, si pâle, à bougonner ? Allons, levez-vous pour danser. » « Oh, que je serai contente quand tout cela sera fini, Ida ! J'ai horreur de lui causer de la peine. Assurément, il doit avoir appris maintenant combien il est désagréable d'avoir à vivre avec des réformatrices. » « Il a bien appris, Clara, mais encore une petite leçon. Il ne faut pas risquer de tout perdre au dernier moment. »« Qu'est-ce que vous voulez faire, Ida ? Oh, que ce ne soit pas trop dur, Je trouve que nous sommes déjà allés trop loin. » Oh, nous pouvons faire la chose très gentiment. Vous savez que nous sommes fiancées toutes deux, et cela facilitera beaucoup l'affaire. Harold fera ce que vous lui demanderez, surtout si vous lui expliquez pourquoi, et mon Charles le fera aussi, sans même chercher à en savoir le motif. Maintenant, vous connaissez la manière de voir de Mistress Westmacott au sujet de la réserve des jeunes personnes. Ce n'est que pruderie, affectation, reste des siècles de ténèbres du Zenana. Ce sont ses propres paroles, n'est-ce pas? Et après? Eh bien, il faut que nous les mettions en pratique. Nous sommes en train de mettre en pratique toutes ces idées et nous ne devons pas reculer devant celles-là. Mais que voulez-vous faire? Oh, ne prenez pas cet air malicieux, Ida. Vous avez la physionomie d'une méchante petite fée avec vos cheveux d'or et vos yeux pétillants d'espièglerie. Je vois que vous allez proposer quelque chose de terrible. Il faut que nous donnions un petit souper ce soir.
Nous, un souper?
Pourquoi pas? Les jeunes gentlemen donnent à souper. Pourquoi les jeunes personnes n'en feraient-elles pas autant?
Mais qui inviterons-nous?
Eh, mais naturellement, Harold et Charles.
Et l'amiral et Mistress Haydenver?
Oh non! Il serait bien vieille mode. Il faut que nous soyons de notre temps, Clara.
Mais que leur donnerons-nous à souper?
Oh, quelque chose de chouette qui est un goût de noces, de fête, de noctambule. Voyons, du champagne naturellement. Et des huîtres. Oui, des huîtres, cela fera l'affaire. Dans les romans, tous les fêtards prennent du champagne et des huîtres. En outre, on n'aura pas de cuisine à faire. Qu'avez-vous dans votre bourse, Clara?
J'ai 3 livres.
Et moi, 1. 4 livres. Je ne sais pas du tout ce que coûte le champagne. Et vous?
Moi, pas davantage.
Combien d'huîtres un homme peut-il manger?
Je n'en ai aucune idée.
J'écrirai à Charles pour le lui demander. Non, je n'écrirai pas. Je vais demander à Jeanne. Sonnez-la, Clara. Elle a été cuisinière. Elle doit savoir.
Jeanne, soumise à un interrogatoire en règle, refusa de se compromettre autrement qu'en répondant que cela dépendait des gentlemen et aussi des huîtres. Toutefois, la réoupage culinaire, en combinant ses données sur la question, s'accorda à juger que 3 douzaines étaient une quantité convenable.
« Alors cela fera 8 douzaines en tout, » dit Ida en notant ce qu'il fallait sur une feuille de papier, « et 2 bouteilles de champagne. » Puis du pain de ménage, du vinaigre, du poivre. C'est tout, je crois. Après tout, ce n'est pas si difficile que cela de donner à souper, n'est-ce pas, Clara?
Je n'aime pas cela, Ida. Il me semble que c'est si inconvenant.
Mais c'est indispensable pour mener l'affaire jusqu'au bout. Non, non, il ne faut pas reculer, Clara, sans quoi notre projet sera à volo. Papa reviendra certainement à 9h15. Il sera à la porte à 10h. Il faut que tout soit prêt à son arrivée. Maintenant, asseyez-vous tout de suite. Dites à Harold de venir à 9h. J'en ferai autant pour Charles. » Les 2 invitations furent envoyées, reçues et acceptées. Harold était déjà dans la confidence et il devina que c'était là un nouvel épisode du complot. Quant à Charles, il était si habitué aux excentricités féminines telles que les personnifiait sa tante, que la seule chose capable de le surprendre était la rigoureuse observation de l'étiquette. À 9h, ils arrivèrent dans la salle à manger du numéro 2, où ils trouvèrent, en l'absence du maître de la maison, une lampe à globe rouge, une nappe d'une blancheur de neige, un charmant petit festin, et, pour société, les 2 personnes qu'ils auraient d'eux-mêmes choisies. Jamais on ne vit réunion plus gaie. La maison retentissait de leurs rires et de leurs propos.
« Il est 10h-3 minutes !» s'écria soudain Clara en regardant la pendule.
« Grand Dieu, c'est vrai! Vite à notre petite mise en scène !»
Ida plaça les bouteilles de champagne bien en vue du côté de la porte et éparpilla les coquilles d'huîtres sur la nappe.
« Avez-vous votre pipe, Charles ?»«
Ma pipe, oui. »«
Alors, je vous prie, fumez-la. Ne discutez pas à ce sujet. Obéissez. » Sans cela, notre effet est manqué.
Le gros gaillard sortit de sa poche un étui rouge et en tira une grande pipe d'écume, de laquelle, un instant plus tard, il lança des torrents de fumée. Harold avait allumé un cigare et les deux jeunes filles des cigarettes. « Voilà qui a l'air très chic, très émancipé, » dit Ida en regardant autour d'elle. « Maintenant, je vais m'allonger sur le canapé. Comme ça. Maintenant, Charles, asseyez-vous ici et jetez négligemment votre bras par-dessus le dossier du canapé. Non, ne vous arrêtez pas de fumer. Ça me plaît. Clara, ma chère, posez vos pieds sur le seau à charbon et tâchez de prendre un air un peu évaporé. Je voudrais que nous puissions nous couronner de fleurs. Il y a des laitues sur la servante. Oh mon Dieu, le voilà, j'entends sa clé. » Et elle se mit à chanter de sa voix aiguë et fraîche quelques vers d'une chanson française au refrain repris par un cœur plein d'élan. Le docteur avait fait le trajet de la gare à son domicile dans une disposition tranquille et pleine d'indulgence. Il sentait que peut-être il avait trop parlé le matin, que ses filles avaient été pendant des années des modèles sous tous les rapports, et que si, en ces derniers temps, elles s'étaient montrées un peu différentes, cela tenait à leur vif désir de suivre ses avis à lui et d'imiter Mistress Westmacott. Il était maintenant en état de voir clairement que cet avis était imprudent et qu'un monde peuplé de Mistress Westmacott pourrait bien être point l'idéal du bonheur et de la concorde. Les torts étaient donc de son côté, et il souffrait à la pensée que ses paroles trop vives avaient pu causer de la peine et de l'agitation à ses deux filles. Mais cette crainte fut bientôt dissipée. Dès son entrée dans le vestibule, il entendit la voix d'Ida qui chantait une chanson entraînante, et il lui arriva au nez un fort parfum de tabac. Il ouvrit brusquement la porte de la salle à manger et resta abasourdi devant le tableau qu'il avait sous les yeux. La pièce était pleine de traînées de fumée bleue. La flamme de la lampe ne s'apercevait qu'à travers un léger brouillard et se projetait sur des bouteilles au corsage doré, des assiettes et un amas de coquilles d'huîtres et de cigarettes. Ida, la figure rouge et animée, avait une cigarette entre ses doigts. Charles Westmacott était assis près d'elle, le bras passé par-dessus le bord du canapé en un geste caressant. De l'autre côté de la pièce, Clara était étalée dans un fauteuil près d'Harold. Tous deux fumaient. Tous deux avaient près d'eux des verres de vin. Le docteur resta muet de surprise à contempler cette scène des bacchanales. « Entrez, papa, entrez !» s'écria Ida. « Voulez-vous prendre un verre de champagne ?»« Je vous prie de m'excuser, » dit froidement son père. « Je crois que je suis de trop. Je ne savais pas que vous donniez à souper. » Peut-être voudrez-vous bien m'en informer quand vous aurez fini. Vous me trouverez dans mon cabinet. » Quant aux deux jeunes gens, il fit comme s'il ignorait absolument leur présence. Il referma la porte et se retira confus et mortifié dans sa chambre, où ses deux filles vinrent lui annoncer que leurs invités étaient partis. « Invités ? Invités par qui ? » s'écria-t-il avec colère. « Que signifie cette exhibition ? » ?»« Nous avons donné un petit souper, papa. » Ils étaient nos invités. Ah, vraiment ! Le docteur eut un rire sarcastique. Alors, reprit-il, vous trouvez convenable de régaler, jusqu'à une heure avancée de la nuit, de jeunes célibataires, pour fumer, pour boire avec eux ? Ah ! Oh, dire que j'ai assez vécu pour rougir de mes propres filles ! Je remercie Dieu que votre bonne mère n'ait point vu ce jour-là. Bien cher papa ! S'écria Clara en lui jetant les bras autour du cou. « Ne vous fâchez pas contre nous. Si vous saviez tout, vous verriez qu'il n'y a rien de mal dans tout cela. »« Rien de mal, mademoiselle. Qui en est le meilleur juge ?»«
Mistress Westmacott ?»
suggéra sournoisement Ida. Le docteur bondit de sa chaise. « Au diable, Mistress Westmacott » s'écria-t-il en battant avec fureur l'air de ses mains. « Est-ce que je n'entendrai jamais parler que de cette femme ? Est-ce que je l'aurai devant moi à chaque pas ? Je ne le souffrirai pas plus longtemps. »
Mais c'était votre désir, papa.
Eh bien, toute réflexion faite, je vais vous dire ce que je désire désormais, et nous verrons si vous y obéirez, comme vous avez obéi à mon premier vœu.
Naturellement, papa, nous obéirons.
Eh bien, le voici, mon désir, c'est que vous renonciez à ces odieuses idées dont vous vous êtes pénétré,
que vous vous habilliez, que vous vous comportiez comme vous aviez coutume de le faire avant d'avoir jamais vu cette femme, et que désormais vous borniez vos relations avec elle à ce qu'exige la stricte politesse entre voisins. Nous devons renoncer à Mrs. Westmacott ou renoncer à moi. Oh, cher papa, pouvez-vous dire une chose aussi cruelle? En enfouissant sa tête à la chevelure crépelée et dorée dans le devant de chemise de son père, pendant que Clara mettait sa joue contre ses favoris. Naturellement, c'est à elle que nous renonçons, si vous le préférez. Naturellement, nous le ferons, papa. Le docteur passa sa main sur ses deux têtes caressantes. Les voilà revenus, mes deux filles, s'écria-t-il. C'est arrivé par ma faute autant que par la vôtre. Je me suis égaré et vous m'avez suivi dans mon erreur. C'est seulement la vue de votre méprise qui m'a fait apercevoir la mienne. Laissons cela de côté et n'en parlons plus, n'y pensons plus.